avec deux urnes différentes et même trois fois à Lyon, puisqu'il y a aussi un vote pour la métropole. Donc, on unifie peut-être, mais on ne simplifie pas du tout. Ensuite, les promoteurs de la loi prétendent mettre un terme à une anomalie qui remonterait à la fameuse loi PLM votée il y a 40 ans, mais en fait, pas du tout. Depuis qu'il y a des élections municipales, c'est-à-dire depuis 1881, on a toujours voté par arrondissement ou par secteur dans ces villes. À Paris, sous la Troisième République, on votait même à l'échelle des 80 quartiers. Et de fait, les arrondissements font partie de l'histoire, et notamment de l'histoire électorale de Paris, Lyon et Marseille. Alors, tout mode de scrutin, bien sûr, peut se défendre, mais celui qui a été voté hier marque une rupture avec toute l'histoire électorale de ces villes-là.
Alors, y a-t-il eu consensus politique à l'Assemblée pour voter cette réforme?
Alors, pas de consensus, mais il faut le reconnaître, une nette majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que le clivage a traversé toutes les formations. Les socialistes parisiens étaient à fond contre, mais les socialistes marseillais ont voté pour. La droite qui soutient Rachida Dati a soutenu la réforme, mais la majorité des députés LR ont voté contre. Et quant aux pour, eh bien, ils ont été renforcés par les voix de LFI et du Rassemblement National. Au passage, hein, notez que quand il s'agissait de voter la loi immigration, les macronistes se disaient « Non, on ne comptera surtout pas les voix du RN ». Mais là, d'un seul coup, les voix lepénistes et mélenchonistes sont devenues tout à fait acceptable. Alors pourquoi ces votes à la carte? Eh bien tout simplement parce que quand on touche à un mode de scrutin, on met en avant des grands principes, mais en fait chacun défend le scrutin qui l'arrange ou qui croit le mieux lui convenir. Les macronistes et Dati pensent pouvoir ravir Paris avec un vote à l'échelle de toute la ville, et les socialistes pensent être plus tranquilles en gardant leurs arrondissements actuels. Et quant aux maires d'arrondissement LR, eh bien ils préfèrent garder leur fief dans une ville de gauche que perdre leur influence en voyant Dati élu.
Vous citez Rachida Dati, ce nouveau mode de scrutin est-il une bonne nouvelle pour la ministre de la Culture?
Bah, écoute, elle le croit, puisqu'elle l'a voulu. En tout cas, des listes à l'échelle de tout Paris obligeront la droite et les macronistes à s'unir, au moins au second tour. Mais à LR comme à Renaissance, il y a encore beaucoup de méfiance mutuelle et de résistance. Ensuite, ironie du calendrier parlementaire, le même jour a été votée donc cette loi, souhaitée par la maire du 7e, mais aussi a été retirée de l'examen la loi sur l'audiovisuel portée par la ministre de la Culture, soit la même personne. Examen difficile en commission, prolongation de la discussion sur la loi simplification, embouteillage du calendrier parlementaire, bref, le gouvernement a préféré retirer purement et simplement ce texte qui aurait dû être la grande réforme de Rachida Dati, laquelle aura donc eu le même jour à l'Assemblée, une bonne et une mauvaise nouvelle.
L'éditorial de Guillaume Tabar, qui est chaque jour une bonne nouvelle, vous le retrouvez sur lefigaro.fr et à 8h10 sur cette antenne chaque matin. Et maintenant, l'invité de la matinale. Économiste et essayiste, il est membre du comité directeur de l'Institut Montaigne et du comité de direction de la revue Commentaire. Il publie aujourd'hui dans Le Point une tribune intitulée « La guerre économique ».
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Nicolas Barrèze.
Bonjour.
Dans Le Point, vous évoquez une guerre totale. Depuis hier, on sait qu'une guerre économique peut connaître une trêve de 90 jours annoncée à la surprise générale par Donald Trump. Comment l'analysez-vous?
Eh bien, exactement comme ça, comme une simple trêve. Donald Trump continue à se mettre en scène avec des décisions tout à fait erratiques. Il a ouvert une multitude de dossiers et aucun n'est pour l'instant abouti à quelque résultat que ce soit, sinon un énorme chaos sur les échanges et les paiements mondiaux. Alors cette trêve, elle est bienvenue parce que ça va permettre effectivement d'essayer de négocier, mais je crois que ça ne change rien au panorama général qui est premièrement, cette logique de la guerre économique totale sur le protectionnisme, mais aussi sur la monnaie avec le dollar, sur la finance et puis sur les normes. Et par ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, y compris quand les nouvelles sont plus raisonnables, c'est quand même la destruction de tout ce qui a fait la puissance des États-Unis. Puisque pourquoi est-ce que finalement les États-Unis, contrairement à l'Europe, ont conservé une part de 25% dans le PIB mondial? C'est qu'aux États-Unis, on avait un environnement très favorable aux entrepreneurs, un État qui était un État de droit, un système qui obéissait plutôt à la raison économique, des marchés économiques qui étaient très, très profonds, et par ailleurs, une recherche scientifique, une avance technologique remarquable. Et tout ça, ça s'est fracassé, donc ça va peser très durablement sur le destin de l'Amérique, et donc évidemment aussi sur l'Europe, parce qu'au passage, Donald Trump a fracassé tout ce qui ressemblait à l'Occident et à une solidarité occidentale.
Ce qui veut dire que les 90 jours à venir, on aurait tort de confondre le répit et un retour en arrière, et qu'il faut plutôt les mettre à profit pour se dire il faut changer de logiciel quand on discute avec les États-Unis.
Absolument, c'est-à-dire que c'est comme pour l'OTAN, les États-Unis aujourd'hui sont devenus une puissance impériale et qui désigne l'Europe comme un adversaire, sinon un ennemi. Donc il faut faire vis-à-vis des États-Unis ce qu'on a fait vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire il faut avoir une politique de de-risking. Et par ailleurs,
de-risking.
Il faut que les Européens arrêtent d'être sidérés par les déclarations multiples de Trump. Il faut mettre en place une vraie stratégie qui permette à l'Europe de s'affirmer comme un pôle autonome de puissance. Et donc, j'allais dire, il faut être comme les autres, c'est-à-dire avec les États-Unis, quand nos intérêts sont communs, il faut évidemment négocier. Et en l'occurrence, le fait d'essayer de trouver un accord pour avoir les droits de douane les moins élevés possibles, c'est évidemment un intérêt commun. Mais il ne faut pas hésiter aussi à discuter avec la Chine pour voir si on peut arriver à remettre en place un système multilatéral efficace, et cette fois-ci juste, pas comme ce qui a été fait en 2001 quand la Chine est rentrée sans aucune contrepartie, et à ce que l'Europe prenne la tête d'un nouveau système multilatéral hors États-Unis.
Nicolas Bavrez, vous avez utilisé un mot anglais, de-risking. Je voudrais juste que vous nous le définissiez, parce que j'ai l'impression que dans votre langue, dans votre vocabulaire, il est important. Qu'est-ce que c'est que le de-risking ?
Alors, ça a été souvent opposé au découplage. Le découplage, c'est l'idée de se séparer complètement. On ne va pas du tout se séparer des États-Unis complètement, ça n'a pas de sens. En revanche, le de-risking, c'est l'idée de gérer le risque américain. Jusqu'à présent, les États-Unis étaient une réassurance au plan économique comme au plan stratégique. Aujourd'hui, les États-Unis sont devenus un risque. Et donc, il faut le gérer activement. C'est vrai pour les nations, c'est vrai pour l'Union, c'est vrai aussi pour les entreprises, bien sûr.
Vous évoquiez la Chine qui joue la carte de la mondialisation, presque. Elle veut tenir le rôle du bon élève. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Ça l'arrange. Certes, elle fait du dumping social, certes, elle menace nos industries avec ses prix bas et désormais sa capacité d'innovation. L'Europe doit-elle se tourner davantage vers la Chine, mais aussi évidemment vers l'Inde ou l'Amérique du Sud, c'est-à-dire aller chercher des zones de libre-échange qui ne soient pas uniquement le précaré
occidental. Oui, je crois que c'est absolument ce qu'il faut faire, mais il faut le faire sans aucune naïveté. Un des gros risques aujourd'hui, c'est le fait que la Chine, qui a construit à la fois le leadership dans les technologies vertes et qui a d'énormes surcapacités industrielles, elle va, avec les 125% de droits de douane, ça va quand même être très compliqué de continuer à avoir accès au marché américain. Donc le risque, c'est que ça se déverse en Europe. Ça, il faut l'empêcher. À l'inverse, discuter avec les Chinois pour essayer de remettre en route un système multilatéral, mais qui repose sur la réciprocité, donc ce qui n'a jamais été le cas vis-à-vis de la Chine. Donc, si la Chine veut être présente en Europe, ça suppose qu'elle ouvre son marché, ça suppose qu'elle ouvre ses marchés publics, ça suppose qu'elle se comporte comme elle ne l'a jamais fait, c'est-à-dire de manière loyale dans un système d'échange et de paiement, et qui soit régulé.
Nicolas Bavrez, je voudrais qu'on revienne à la pratique politique et à l'exercice du pouvoir par Trump. Nous, les Européens, devons faire de plus en plus face à des régimes dont les leaders, les responsables, prennent des décisions imprévisible, on le voit aujourd'hui, basé sur le rapport de force souvent. C'est la stratégie du chaos, chère à Trump, théorisée par Daem Poli dans son dernier livre, et dans un livre qui s'appelait aussi « Les ingénieurs du chaos ». Mais Trump n'est pas seul. Erdogan en Turquie, Netanyahou en Israël, Poutine évidemment en Russie, se comportent chacun à leur façon comme des prédateurs. Comment gère-t-on les prédateurs quand on est une vieille démocratie ? La question vaut pour la France comme pour ses voisins européens.
Alors, de fait, nous vivons le printemps des autocrates, et effectivement, cette âge des prédateurs, il y avait deux hypothèses finalement pour Trump. C'était le fait que ça serait Trump 1 en plus musclé sur le transactionnel, donc très dur, ou c'était une vraie rupture idéologique. On a une rupture qui est une rupture dans l'histoire, très profonde dans l'histoire des États-Unis, puisque on a l'alignement sur ces empires autoritaires, à la fois le refus de la séparation des pouvoirs, la suspension presque de l'état de droit, un régime d'arbitraire, même de peur sur les universités, sur la recherche, sur les musées, sur la culture, et puis le fait que finalement, les États-Unis maintenant, comme les autres, sont dans une logique impériale de zone d'influence. Donc c'est la grande Amérique du Panama jusqu'au pôle Nord, avec l'intégration du Canada, du Groenland. Bon, ça, c'est donc une rupture qui est une rupture très importante. Donc pour l'Europe, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'Europe, elle a longtemps cherché quel pouvait être son projet, on ne savait pas trop. Et là, le projet, ben, il s'impose, c'est la défense de la vieille démocratie libérale face à une Amérique qui est devenue illibérale comme les autres autocraties. Le projet est là, le problème c'est de savoir si l'Europe va pouvoir s'en saisir. Parce que dans les accusations lancées par Trump et ses alliés contre l'Europe, il y a des choses qui sont évidemment vraies. Le fait qu'on est dans une situation de suicide démographique, le fait qu'il n'y a plus de croissance, le fait qu'on a construit un monstre réglementaire et qu'effectivement, ce qu'on a vu par exemple, pendant la pandémie de Covid, il y a aussi des vrais problèmes de liberté, y compris publique.
On a un sujet aussi sûr qu'on ne sait plus éduquer nos enfants.
Et par ailleurs, on est incapable d'assurer notre sécurité. Or, prétendre, c'est la base, c'est-à-dire que si on veut prétendre incarner la liberté, il faut être capable de la défendre. Donc, voilà ce sur quoi il faut qu'on se positionne et qu'on réagisse. Et c'est pour ça qu'il faut une stratégie de long terme face à cette guerre économique totale. Évidemment, il faut des mesures défensives contre le protectionnisme, mais ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie offensive. La stratégie offensive, c'est comment est-ce qu'on fait de l'Europe un espace de prospérité, une économie de compétitivité avec de l'offre et pas seulement de la réglementation. Et par exemple, sur le numérique, c'est vrai que l'idée qu'on va réguler le numérique pour l'humanité alors qu'on n'a ni production ni recherche, c'est une idée qui ne tient pas. Et ensuite, il faut offrir de la sécurité. Mais vous voyez que l'instabilité structurelle mise par Trump aux États-Unis fait que, y compris les investisseurs, se réintéressent à l'Europe dans un système qui doit rester prévisible, stable, mais dans lequel il faut remettre, j'allais dire, de la capacité à entreprendre et à créer.
Il faut aussi une volonté des peuples, une volonté des nations qui composent l'Europe. Tout ne peut pas partir de Bruxelles. Est-ce que ce n'est pas le moment d'organiser un référendum européen, de consulter les Européens sur une question simple ? Est-ce que vous voulez assumer une politique de puissance, puisque l'Europe est puissante économiquement ? Est-ce qu'il faut leur poser la question ? Est-ce qu'il faut que les peuples se déterminent et sortent de cette léthargie consumériste et de ce confort que leur garantit l'après-Deuxième Guerre mondiale ?
Alors, oui, il faut évidemment, dans une démocratie, ultimement, tout part des citoyens. Mais, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses positives. Regardez l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est l'endroit du monde où on est compétitif, on fait de la solidarité, on fait de la transition écologique, on fait de l'innovation et on fait du réarmement sérieux face à la Russie. En Europe du Sud, il s'est passé pas mal de choses. L'Irlande va très bien. La Pologne, depuis qu'ils sont entrés dans l'Union, c'est 5% de croissance. Ils réarment de manière très sérieuse. C'est un vrai succès. Donc, il y avait deux grands malades, la France et l'Allemagne. L'Allemagne est en train de bouger avec Friedrich Merz de manière extrêmement sérieuse et profonde. Donc, En Europe, en réalité, il se passe beaucoup plus de choses positives que ce qu'on veut, bien dire. Et c'est vrai que je ne crois pas du tout. Il faut regarder, parce que vous voyez, la partie compétitivité des réglementations, on est bien d'accord, c'est l'Union. Mais la partie sécurité, ça ne peut pas être l'Union, il faut être très clair. L'Union, elle peut arrêter les choses absurdes, comme la taxonomie qui dit qu'investir dans la défense, c'est comme les jeux d'argent et la pornographie. Mais la défense, la sécurité, ce sont les États. Et il faut un directoire, et c'est aussi l'occasion de ramener le Royaume-Uni dans l'Europe. Et ça, c'est un point qui est très important. Et si on arrive à faire ça, eh bien, je crois qu'il y a de la place pour une Europe, il y a vraiment de la place pour une Europe puissance.
Merci Nicolas Babrès. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Sursaut, aux éditions de La Découverte. Et votre tribune dans Le Point de cette semaine, La guerre économique totale.
Radio Classique. Rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Dans la presse de ce matin, c'est évidemment Donald Trump qui fait encore la une.
Le président américain est à la fois un bon client pour les journaux et aussi un cauchemar. Les quotidiens étaient en train de boucler hier soir, peu après 19h, et il a fallu tout changer. Et hop, ça donne. Trump fait marche arrière en première page du Figaro, qui a dû en faire tout autant. Le yo-yo de Trump à la une des Échos, qui ont casé en page 7 l'annonce de ce coup de tonnerre. La Dépêche du Midi, plus calme, fait sa manchette sur la pause décrétée par le président américain. Le Télégramme de Brest, les dernières nouvelles d'Alsace et l'Opinion évoquent une volte-face, comme le Parisien, dont l'article débute ainsi. Ordre plus contre-ordre égale désordre.
Quelqu'un qui a fait son service militaire, c'est bien.
Probablement. Le correspondant du Monde à Washington ironise. Une révolution incluant le bouton pause n'est pas une révolution, c'est une débâcle, une improvisation désordonnée, même si ses auteurs en refusent l'évidence. Aucun journal ce matin n'a utilisé le mot palinodie. C'est dommage.
Eh bien, on demandera à Karine Dijoux de nous en expliquer l'étymologie dans « Et si on parlait français chaque jour à 7h20 sur cette antenne ?» Le président américain fait aussi la couverture de plusieurs hebdomadaires qui ne sont pas tous bien tombés.
Difficile de faire des magazines quand le monde est gouverné par l'inconstance. Les hebdomadaires ont bouclé mardi, quand le monde était pris de panique à cause des tarifs douaniers XXL de Donald Trump. Et ils paraissent ce matin quand le monde se demande si Trump a renoncé ou s'il recule pour mieux sauter. Le magazine Challenge titre donc en couverture « Face au chaos », ça marchera toujours, mais il est question aussi des conséquences pour la France, et sur ce point, tout a changé hier soir. L'Express affiche un Trump chevauchant un taureau en furie, et la courbe des marchés financiers qui s'effondre, mais voilà, hier soir, la courbe est remontée. Titre de l'hebdomadaire « Comment éviter la catastrophe ?» Les termes de l'équation ont un peu changé. Le Point s'en sort bien en titrant « Les temps sauvages » et un dossier de 20 pages très fourni. À la fin du numéro, Kamel Daoud se demande si on ne devrait pas tenter de passer une journée sans parler de Donald Trump. Encore raté.
Il arrive que les journaux se trompent en le faisant exprès. Le magazine Courrier International en donne un exemple troublant.
C'est à lire sur le site du magazine. Depuis 2021, un prétendu expert en politique et en affaires militaires centrafricain a publié des dizaines d'articles dans des journaux réputés d'Afrique de l'Ouest, tous consacrés, ces articles, à dénigrer la présence française sur le continent africain. C'était en réalité un propagandiste russe, originaire du Ghana et basé à Novgorod, proche du groupe Wagner. Personne ne le voyait jamais. Il faisait passer ses papiers aux rédactions par des intermédiaires, paraît-il, dignes de foi. C'est la photo de son profil sur les réseaux sociaux qu'il a trahi. La chaîne qatarienne Al Jazeera a découvert que c'était en réalité le portrait d'un ancien arbitre de football mort quelques mois avant la parution des premiers articles. La suite de l'enquête a révélé, dans les métadonnées des articles en question, des traces d'alphabet cyrillique qui ont permis de remonter jusqu'à l'auteur, c'est-à-dire le faussaire. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit dans les journaux.
Libération s'est livrée à une autre enquête sur la piste d'un mystérieux incendiaire qui s'attaque aux voitures de la marque Tesla.
Sujet brûlant, en effet, à Niort, dans les Deux-Sèvres, depuis septembre dernier, un véhicule sorti des usines d'Elon Musk prend feu une fois par mois, raconte l'envoyé spécial de Libération qui évoque une roulette russe du pneu cramé. Non pas que le Kremlin soit en cause, mais il semble que le serial brûleur de Niort frappe un peu au hasard, sauf dans le choix de la marque. Le procureur a ouvert une enquête, la police surveille les parkings et les bornes de recharge. Libération a repéré 1 message posté sur un site que le journal qualifie de militant et dont le texte ressemble à une revendication. Libération a alors contacté l'auteur et reçu des réponses. « Je suis un des militants à l'origine de ces actions », a écrit l'individu, qui voit en Tesla un « Big Brother sur roue » contre lequel il serait nécessaire d'agir. Il ajoute « L'action directe continuera tant que je vivrai sous différentes formes et à différents endroits. » On aurait envie d'en sourire, mais pas que.
D'autres sortes d'enquêtes pour terminer. Le Figaro consacre une page à Boileau et Narcejac, célèbres auteurs de romans policiers du siècle dernier.
Aussi inséparables que Roux et Combaluzier, aussi inquiétants que Donald Trump et Elon Musk, plus sagaces que Dupont et Dupont, les deux écrivains signaient leur livre avec un trait d'union entre leurs noms. Le Figaro leur rend hommage à l'occasion de la sortie d'un recueil de leurs romans qui ont inspiré le cinéma. Celle qui n'était plus, dont Clouseau a tiré les diaboliques, d'Entre les morts, qu'Hitchcock a adapté dans Vertigo. Boileau était né à Montmartre, il admirait Agatha Christie, il publiait des nouvelles prometteuses. Narcejac s'appelait Pierre Hérault, il était prof de lettres à Troyes et il allait à la pêche près du hameau de Narcejac. Séparément, il n'aurait sans doute pas connu la gloire, mais on commet de meilleurs crimes avec un complice. Leur premier coup à quatre mains date de 1952, avec celle qui n'était plus, donc, dont Clouseau achète aussitôt les droits. Hitchcock fera de même deux ans après. Boileau et Narcejac n'ont pas adoré Vertigo, qui s'éloignait beaucoup de leurs livres, mais ils se sont dit heureux d'être trahis avec tant de talent. On apprend dans le Figaro qu'ils ont quand même proposé au maître du suspense un script inédit, mais ça n'a rien donné. Il arrive que le crime ne paie pas.
Hervé Gattegnaud, la revue de presse, Bernard Herrmann pour la musique.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Franz.
Bonjour David.
Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin. C'était mardi soir en marge de son voyage en Égypte. Il rentrait d'Égypte. Est-ce sérieux ?
Non. Non. Non, je veux dire pourquoi ? Parce que d'abord, pourquoi ce conditionnel ? Hein, en diplomatie, c'est pas terrible d'être conditionnel. Et puis, pourquoi donner une date, un délai ? Ça ne se fait pas non plus si c'est important. Donc, c'est pas très sérieux, mais c'est quand même important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la France, elle a des choses à dire aux arabo-musulmans au Proche-Orient. On l'a vu dans le passé, ça a commencé avec De Gaulle, ça continue avec Mitterrand, Giscard, tout le monde. Enfin, tout le monde a eu des choses à dire. Bon, c'est vrai que la France, elle a un peu plus de mal, en tout cas les gouvernements français, avec les arabo-musulmans de France, auxquels ils savent pas, les dirigeants, nos dirigeants ne savent pas vraiment parler. Alors, c'est évidemment, c'est important parce que tout le monde est pour un État palestinien. Tout le monde est pour, enfin, tout le monde ou presque, à part deux ou trois personnes. À commencer par Netanyahou. Mais tout le monde est contre, à condition, bien sûr, que celui... Tout le monde est pour, à condition, bien sûr, que celui-ci reconnaisse le droit à exister d'Israël. Alors, avec Yasser Arafat, jadis, l'ancien terroriste devenu un peu le père de la Palestine, ben c'était possible. C'était même écrit, il le disait. Moi, j'ai rencontré, il le disait. Il reconnaissait l'existence d'Israël. Avec ceux qui prétendent aujourd'hui représenter les Palestiniens, ben c'est beaucoup plus compliqué. Mahmoud Abbas, il veut bien reconnaître Israël, hein, le patron de l'autorité palestinienne déchu, parce qu'elle a
été battue aux
élections. Bon, Mahmoud Abbas, il veut bien reconnaître Israël, mais pas l'État juif. Nuance. Il est un peu comme beaucoup de LFI, si vous voulez. Il a un gros problème avec les Juifs, Mahmoud Abbas. Quant à Hamas, l'autre prétendant au titre, il est depuis toujours pour l'éradication, la disparition d'Israël. Ben, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un État palestinien avec des composantes qui refusent de reconnaître Israël. C'est très compliqué.
Christian Macarian disait tout à l'heure, en fait, l'initiative d'Emmanuel Macron consiste à proposer cette reconnaissance pour pouvoir embarquer d'autres États arabes qui n'ont pas reconnu Israël, qui pourraient le faire, ce qui pourrait faire avancer le dossier d'une reconnaissance mutuelle, ou en tout cas d'admettre qu'il puisse avoir une solution à deux États, sachant que il y a ceux qui sont totalement contre la création d'un État palestinien, ils sont peu nombreux, vous l'avez dit, il y a ceux qui sont pour une solution évidemment à deux États, donc pour la reconnaissance. Et puis, il y a ceux, vous venez de le rappeler, qui disent c'est absolument pas possible. Même si on voulait, on peut pas, parce que le Hamas restera le Hamas et les héritiers de l'OLP resteront les héritiers de l'OLP.
Bon, c'est évident que c'est une bonne formule. Je vous signale, en passant, que c'est tout à fait dans la foulée des accords d'Abraham initiés par Donald Trump. Hein. Il ne faut pas l'oublier, parce que quand vous voyez l'Arabie Saoudite, l'Égypte, peut-être demain le Maroc, enfin d'autres pays, bien sûr la Jordanie, enfin, tout ça est déjà dans les clous depuis un certain temps. Mais, je veux dire, on ne peut qu'approuver ça. Ce que je contestais au début, c'était balancer l'information comme ça, avec un conditionnel, une date. Tout ça, je le répète, n'est pas forcément très sérieux. Ça commence mal, mais l'idée est bonne et espérons que ça marche. Et je veux dire, surtout que c'est important à un moment donné, à un moment où en France, vous sentez bien une montée toujours de l'antisémitisme. Moi, je veux dire, à ce propos, d'ailleurs, j'étais très frappé par le visage haineux, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'Émeric Caron à l'Assemblée nationale mardi, quand avec ses collègues de LFI, il a montré des photos d'enfants palestiniens tués, selon lui, à Gaza, par l'armée israélienne. Bon, c'était peut-être la propagande du Hamas, peut-être pas, je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait pu montrer aussi, parce que ça aurait été intéressant aussi, parce que c'est le même malheur, je suis désolé, des enfants israéliens, tués, des enfants ukrainiens, soudanais, kurdes aussi, il y en a. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quand même indécent d'essayer de faire des voix, d'essayer de gagner des voix avec le malheur, la mort des enfants. Voilà. Pourquoi cette indignation sélective? Et puis pourquoi tant de haine? Bon, on a tous notre petite idée, hein.
Vous avez fait un lien entre peut-être la reconnaissance de l'État palestinien et la montée de l'antisémitisme en France avec au milieu la France insoumise. Est-on certain que la reconnaissance de cet État par la France ferait baisser ou modérerait les ardeurs antisémites en France?
Bah, vous savez bien que non.
J'en sais rien, je vous pose la question.
Bah, on peut compter sur LFI, ils trouveraient autre chose. Ils trouveraient autre chose, toujours à propos d'Israël ou à propos des Juifs en Occident. Mais c'est évident. Parce que ça marche, parce que c'est électoral, parce que ça fait gagner des voix.
Est-ce que vous faites un continuum, comme on dit désormais, entre François Mitterrand, Jacques Chirac, et même avant eux le général de Gaulle, et Emmanuel Macron sur la politique arabe de la France et la position pro-arabe depuis les origines, si j'ose dire, du Quai d'Orsay?
Oui, oui, bien sûr. Il y a un continuum, et je pense simplement que dans les deux cas du général de Gaulle et de François Mitterrand, il y avait, disons, peut-être un petit peu plus de vue à long terme. Je pense qu'aujourd'hui, hélas, depuis déjà quelques décennies, on est vraiment dans le court terme.
Alors, le court terme ne concerne pas uniquement la politique étrangère de la France, ça concerne aussi les zigzags, les volte-face, le yo-yo, appelez ça comme vous voulez. L'Express a une très belle image ce matin en couverture du magazine. C'est un Donald Trump qui fait du rodéo et il n'est pas le seul avec les indices boursiers qui fluctuent. Là, ils sont à la hausse. Enfin bon, changement de cap avec cette fameuse trêve. Il rétropédale Trump. Est-ce que ce qui se passe dans notre relation avec Trump, ces tarifs douaniers qui nous pendent au nez comme une épée de Damoclès, est-ce qu'ils peuvent nous réconcilier avec les vertus du libre-échange, voyant le protectionnisme monter ici et là?
Bah, écoutez, David, j'ai fait un petit peu d'archéologie hier soir. De l'archéologie profonde.
Avec votre pinceau?
Ouais, je suis allé regarder le programme du nouveau Front populaire de 2024. Heureusement qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir, hein, parce que c'est une bêtise absolument dingue. C'est un, d'ailleurs, ce programme, c'est fascinant d'entendre ces gens aujourd'hui qui hurlent contre Trump, à commencer par ce pauvre Ruffin qui dit « Faut interdire les Tesla
oui, ».
Non,
oui,
mais
oui.
Ils disent « Il faut interdire des voitures maintenant
oui, ». Bon, oui.
Et ils sont tous, évidemment, sur le protectionnisme, mais ce sont des protectionnistes.
Rappelons que dans le nouveau Front populaire, il y a les écologistes, le Parti socialiste et la France
Insoumise. Et les écologistes, hein,
voilà, et les communistes.
Les écologistes, voilà. Et les communistes. Bon. Et ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là, en fait, ils critiquent Trump, ils hurlent contre Trump, et en fait, ce sont les mêmes, c'est-à-dire ils ont la même stratégie, enfin, si on peut appeler ça une stratégie, c'est tellement bête, protectionniste. Alors, leur programme du nouveau Front populaire, hein, qui regroupait tous ces gens, Il prévoyait d'annuler l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, et puis aussi de renoncer à l'accord du Mercosur avec les pays d'Amérique latine pour protéger, je cite, nos agriculteurs de la concurrence déloyale. Fin de citation.
Même Macron n'en veut pas du Mercosur.
Bah oui, même Macron d'ailleurs. Bon, mais ça c'est un peu, parfois, vous savez, la démagogie, ça dépasse un peu les clivages. Bon, et puis ça continue. Parce que vous avez aussi, là je cite encore, il faut mettre fin aux différents traités de libre-échange et instaurer, je cite, un protectionnisme économique et social. Voilà, c'est ça, social, comme disait autrefois Georges Marchais. Alors, de quoi ils se plaignent ces gens? De quoi ils se plaignent quand ils voient que il y a un président américain, trumpiste et anti-libre-échangiste? Et sur le protectionnisme, j'ai été voir du côté du RN. Alors là, j'ai pas du tout trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus prudents, j'ai pas trouvé le mot protectionniste.
Vous diriez que Trump, aujourd'hui, applique le programme de la France insoumise en partie oui, sur, ou l'inverse, avec les barrières douanières.
Mais oui, ou l'inverse. Mais c'est tellement bête. Ça ne peut pas marcher. Stupide. Je crois qu'on l'a déjà dit la semaine dernière. Mais ça ne peut pas marcher. Alors, je dis pas qu'il faut pas négocier ferme, ce que va faire Trump maintenant. Il est revenu à la raison, les marchés l'ont remis sur le droit chemin. Mais là, il y a eu un petit moment de délire, et puis, voilà. Heureusement que les marchés étaient là pour le remettre dans le droit chemin.
Et peut-être aussi que Elon Musk, qui a retrouvé quelques raisons, était là aussi, puisque dans l'entourage de Trump, hein, ça commence à drôlement secouer sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, combien de temps il faut le faire, à quel niveau. Elon Musk a posté une vidéo avec un message tout à fait ciblé en direction de Donald Trump, et ça vous a amusé?
C'est très amusant, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a régulièrement des économistes, d'ailleurs, qui sont de droite ou de gauche, libéraux ou pas trop libéraux, qui s'expriment, qui expliquent les économie aux Américains. Et les Américains est un peuple, d'ailleurs, beaucoup plus féru d'économie que le peuple français. Où, c'est vrai qu'on a toujours droit, mais ça commence à l'école, dès l'éducation nationale. Et puis ensuite, vous avez les médias qui s'y mettent. On a le droit qu'à des économistes LFistes, il faut bien dire les choses. Ce sont ces gens-là. Et on n'entend pratiquement jamais tous ces vrais économistes que nous avons. Jean Tirole, prix Nobel, pourtant prix Nobel, hein, bon, on le voit un peu de temps en temps, mais pas beaucoup. Jean-Marc Daniel, formidable historien de l'économie, et puis un vrai économiste, Philippe de Sertine, et j'en passe, il y en a beaucoup d'autres.
Bon, Philippe de Sertine, on l'entend avec oui, Nicolas Bouzou sur cette antenne.
Bah, puis on a entendu Nicolas Bavret tout à l'heure.
Bravo, parlez-nous de la vidéo d'Elon Musk.
Je parle de cette vidéo parce que c'est important. C'est un vulgarisateur d'économie qui s'appelait Milton Friedman, prix Nobel d'économie lui aussi, très 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 libéral, qui était un peu l'économiste national au temps de Ronald Reagan.
On parlait, je crois, des monétaristes. C'était bien les monétaristes.
Alors, il y a eu des polémiques parce qu'il a conseillé la dictature de Pinochet avec ce qu'on appelait les Chicago Boys.
Qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo, dites-nous.
Mais il a aussi conseillé la Chine communiste. Bon, alors, s'il y a dans cette vidéo, tout simplement, il a pris un crayon, ouais, et il explique le crayon, regardez, voilà, le bois, il vient de l'État de Washington. Ah. Regardez la petite pointe, là, la mine, c'est la graphite. Et ça, tout ça, ça vient d'Amérique du Sud. Vous avez, la gomme, là, la gomme, elle vient de Malaisie. Et tous ces gens-là, il y a eu des milliers de personnes pour faire ce crayon. Personne ne peut faire un crayon tout seul, et c'est le miracle du marché, c'est le miracle du mécanisme des prix, et voilà. Et ça, c'est une vraie leçon d'économie, et c'est une claque dans... c'était une claque pour Donald Trump.
François-Olivier Gisbert, il n'a pas de crayon, il a une plume, on se quitte avec un hommage ou un clin d'œil au zigzag de Donald Trump.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas.
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Bonjour à tous, je vous propose donc d'évoquer cette femme qui a été première ministre d'Israël à 71 ans. Voici Golda Meir.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes à Kiev. À Kiev, en 1902, une petite fille de 4 ans s'appelle Golda Mabovitch. Voici ce qu'elle nous dit. Nous vivions au premier étage d'une petite maison de Kiev et je ne peux oublier les rumeurs récurrentes des pogroms qui nous menaçaient. J'ignorais ce qu'il en était précisément, mais je savais que ce péril était lié au fait d'être juif. Une multitude brandissant couteaux et gourdins faisait irruption dans la ville et hurlant « meurtrier du Christ » s'apprêtait à commettre de terribles choses contre moi et ma famille. La terreur, dira-t-elle, elle écrit ça dans ses mémoires, des mémoires qui paraîtront en 1975, la terreur le plus évident de mes souvenirs. Il faut dire qu'en ce début de XXe siècle, dans l'Empire russe, les Juifs sont constamment persécutés. 690 pogroms en 3 ans, et quand je dis pogroms, il y a des mutilations, il y a des tortures, des choses atroces. La terreur, la nécessité de se défendre vont à jamais marquer celle qui un jour deviendra Golda Meir. Son père est menuisier, Moshe, et il décide de mettre sa famille un petit peu à l'abri chez ses beaux-parents à Pinsk, et lui, de son côté, il va essayer d'émigrer aux États-Unis avec l'idée un jour de les faire venir. Et effectivement, 2 ans plus tard, la situation en Russie est trop dangereuse. La mère, Blouma, et les 3 filles partent à leur tour. C'est le voyage, d'abord jusqu'à Anvers, qui est long, qui est périlleux. Ils sont racketés par des policiers, des voleurs s'emparent de leurs bagages. On dirait que toutes les malédictions du monde se sont abattues sur eux. Mais bref, elles finissent par arriver à Anvers et par embarquer sur un cargo. Oh, quand je dis un cargo, c'est, imaginez ce bateau complètement bondé, parce qu'elles ne sont pas les seules, évidemment. Les voilà dans la traversée vers les États-Unis. Toute la famille se réunira à Milwaukee, c'est dans le Wisconsin, on est sur la rive ouest du lac Michigan. Et la grande sœur de Golda, qui s'appelle Shaina, qui est une intellectuelle et qui, avant même d'immigrer, déjà militait dans les milieux socialistes et sionistes, va donner en quelque sorte un modèle pour la jeune Golda, qui la suit dans cette voie. Golda lit des essais sur l'idée d'un retour des Juifs en Palestine. Vous voyez exactement à quelle époque on est. C'est la grande idée de l'époque, bien entendu. Avec une implantation, pourquoi pas là-bas, et même un État. Et le renouveau de la judéité par le travail de la terre. Elle a 19 ans maintenant, Golda, quand elle adhère aux travailleurs de Sion. Elle milite, elle prêche la parole travailliste à la sortie des synagogues, il faut l'imaginer, juchée sur une caisse. C'est vraiment une jeunesse qui est exactement celle de tous ces pionniers d'Israël, tels qu'on a pu nous les présenter. Et elle va rencontrer un garçon qui est un intellectuel beaucoup plus réservé, Maurice. Ils se marient, elle devient à ce moment-là Golda Meyerson, et tous deux décident de faire ce fameux voyage, de partir pour la Palestine, d'aller refonder l'Eretz d'Israël, la terre d'Israël. Nous sommes en mai 1921. Ils abandonnent donc le confort américain pour aller s'installer dans un kibbutz. On est dans la vallée de Jezreel, en Palestine, qui à l'époque, en 1921, est sous mandat britannique, bien entendu. Voici ce qu'elle dira. « Pas de verger, pas de prairies, pas de fleurs, rien sauf le vent, la pierre et quelques champs brûlés par le soleil. Il n'empêche, elle est heureuse parce qu'elle a accompli ce qui pour elle était un rêve. » C'est pas du tout le cas de Maurice. Pendant 2 ans, elle cultive la terre, elle récolte les fruits, elle se perfectionne dans la langue hébreu et participe au congrès du syndicat Istadrut. Elle croise là un certain nombre de ceux qui un jour vont devenir les dirigeants d'Israël. On pense à Ben Zvi, bien sûr, à Ben Gourion, à Chertok. Elle s'occupe de l'accueil des immigrantes, du droit du travail pour les femmes. Et avec Maurice, elle va avoir 2 enfants. Et finalement, ils vont aller s'installer un peu loin de ce kibbutz. Ils vont aller s'installer en ville, à Jérusalem. Et dans les années 30, on voit Golda qui continue de se battre pour permettre aux Juifs de fuir le nazisme, de s'installer en Palestine, tandis que le gouvernement britannique leur coupe l'accès pour essayer de rétablir des relations plus convenables avec les Arabes. Il y a un livre qui est paru chez Perrin, c'était il y a trois ans maintenant sous la direction d'Anne Fulda. Ça s'appelle « Femme d'État, l'art du pouvoir ». Et voilà ce que nous dit dans le chapitre qui est consacré à Golda Meir, voilà ce qu'écrit Georges Ayache. À l'été 1938, une conférence internationale sur les réfugiés se tient en France, à Évian, à l'initiative du président Roosevelt. Golda Meyerson y assiste en qualité d'observatrice juive de Palestine, mais la parole lui est refusée au cours des débats. D'une même voix, 32 nations participantes à la conférence déclarent qu'elles ne peuvent accueillir le moindre réfugié. En rage, Golda ne mâche pas ses mots devant la presse. Il y a une chose que j'espère bien voir avant ma mort, c'est que mon peuple n'ait plus jamais besoin qu'on lui exprime sa sympathie. Ça, on pourrait presque en faire une devise. Ça résume d'une certaine façon la pensée politique de Golda, qui après la guerre, va nourrir une espèce de défiance envers tous ces pays européens qui ont été incapables de protéger les Juifs, ou même qui ont collaboré à la Shoah. Le peuple juif, pense-t-elle, ne peut compter que sur lui-même. Et en 48, c'est la création de l'État d'Israël, mai 48, elle signe la déclaration d'indépendance qui est lue par Ben Gourion. Elle en pleure d'émotion. Hein. Le soir, elle va arroser l'événement autour d'une bouteille de vin avec quelques amis, mais c'est pas la joie extatique, loin de là. Non seulement je n'étais pas heureuse, mais j'étais terrifiée et avec raison, écrira-t-elle. Le lendemain matin, à l'aube, elle voit passer de la fenêtre de sa chambre les avions égyptiens qui vont bombarder les centrales électriques du nouvel État. Ça y est, c'est déjà la guerre que déclarent les États arabes à cette toute nouvelle nation d'Israël. Ben-Gourion et Golda Meir avaient anticipé ce qui se passe. Voilà, ça fait des semaines qu'elle faisait la tournée de la côte est des États-Unis pour essayer de lever des fonds en vue d'un conflit armé dont elle devinait l'imminence. Et elle a obtenu 200 millions de dollars. Dans ses mémoires, elle dira « Nous, les Juifs, nous avons une arme secrète dans nos guerres avec les Arabes. Nous n'avons nulle part où aller et nous devons nous battre. » Il n'y a pas le choix, en quelque sorte. Ben Gourion va faire d'elle l'ambassadrice d'Israël en Union soviétique. Elle a 40 ans à l'époque. Hein. Elle qui avait fui la Russie, rappelez-vous, à l'âge de 8 ans. La voilà maintenant à Moscou, qui se sent bien impuissante devant l'antisionisme soviétique qui est en train de croître et qui s'ajoute à l'antisémitisme ancestral des Russes. Janvier 49, elle se fait élire députée travailliste et Ben Gourion la nomme ministre du Travail. Les religieux orthodoxes s'étranglent évidemment à l'idée que ce soit une femme qui devienne ainsi ministre, mais enfin bon, ils n'ont pas le choix. Ben Gourion lui demande de d'hébraïser son nom et donc Meyerson va devenir Meir. C'est comme ça qu'elle devient Golda Meir. Elle présente un plan de construction pour essayer de loger tous les arrivants. Il faut imaginer tous ces gens qui arrivent en permanence, il faut bâtir tout, des écoles, des hôpitaux. Elle va se voir proposer le portefeuille des affaires étrangères. Elle a beaucoup plus de mal à s'imposer, parce que là, il faut composer avec un certain nombre de fortes têtes. Hein. Ben Gourion, d'abord, a l'intention de rester maître totalement de la politique extérieure du nouvel État, mais il y a également le chef d'état-major, le célèbre Moshe Dayan. Il y a le secrétaire général à la Défense, Shimon Peres. En 1956, vous savez, il y a la fameuse opération de Suez, hein, sur la prise de contrôle du canal de Suez au moment de la nationalisation par Nasser, et Ben Gourion s'entend avec la France, avec la Grande-Bretagne. Ça va pas du tout dans le sens de ce que voudrait Golda Meir, ça. Et d'ailleurs, elle n'a même pas été informée. On l'a prévenue au tout dernier moment de ce qui était en train de se passer. Elle a un titre de ministre, mais la réalité, c'est que pour l'instant, elle fait surtout de la figuration.
Thank you.
Le prélude du concerto grosso pour piano d'Ernest Bloch, c'est Jenny Lind qui était au piano, accompagnée par l'orchestre philharmonique de la radio de Kaiserslautern, sous la direction de Jiří Štárek.
Vous écoutez Radio Classique.
Elle fait de la figuration, Golda Meir, mais ça ne va pas durer très longtemps. En 1963, un ancien ministre se met à mener contre Ben-Gourion une véritable fronde et elle va, elle, prendre le parti du frondeur contre celui qui avait été son mentor, le vieux, comme on appelait Ben-Gourion, qui tombe. Et à ce moment-là, parce qu'elle a choisi, est-ce que c'est une trahison, est-ce que c'est de l'émancipation, bref, elle a choisi le bon camp, si je puis dire, et elle reste ministre. Et au bout de 3 ans, elle décide, elle aussi, de démissionner parce qu'elle en a assez de se battre comme ça un peu pour rien. Et puis il y a une autre raison, c'est qu'elle est malade. Elle est atteinte d'un lymphome. Mieux vaut jouer les grands-mères à plein temps que les ministres à mi-temps, dira-t-elle avec beaucoup de sagesse. Mais ça va pas durer longtemps. Hein. En février 69, c'est la mort du Premier ministre. Le Parti travailliste doit choisir un nouveau chef. Il y a 2 rivaux à ce moment-là. Diane et le vice-premier ministre Allon, et le parti va choisir une troisième possibilité, la troisième voie, d'une certaine manière, c'est Golda Meir. Et là, les religieux protestent. Non, mais enfin, on va quand même pas nommer une femme Premier ministre. Eh bien si, à 71 ans, la voilà Première ministre. À l'époque, on dit Premier ministre. À nouveau, elle pleure d'émotion. L'ambassadeur de France confie à Claude-Catherine Kiechmann, qui a écrit une biographie de référence, ça c'était en 2015. Il s'appelle Francis Huré, cet ambassadeur. Il dit, j'avais vu quelques jours auparavant une femme vieillissante se plaignant de ses jambes, de sa fatigue. Et voilà qu'elle avait rajeuni de 20 ans, gaie comme un pinson. C'est ça qu'elle attendait, en fait. Levée tôt, nous dit Georges Ayache, Golda avale les dossiers qui s'accumulent sur son bureau dans un désordre auquel sa secrétaire particulière, Luca Dar, s'efforce en vain de remédier. Leur lecture est ponctuée d'entretiens toujours brefs avec ses principaux conseillers, qui disposent d'une grande latitude. La pause déjeuner est expédiée en quelques minutes et elle se remet à l'ouvrage jusqu'au soir, sauf quand elle doit tenir des réunions de cabinet ou se rendre à la Knesset pour débattre avec les députés. Ce n'est généralement qu'à la nuit tombée que Madame le Premier ministre rejoint son petit appartement de Jérusalem. Elle est devenue la grand-mère d'Israël, c'est comme ça que la presse l'a qualifiée. Hein. Dans la presse étrangère, elle est plutôt Iron Woman, la dame de fer, réputée inflexible. Et le quotidien Haaretz, 5 ans plus tôt, voyait en elle une femme tout d'un bloc dont le fanatisme politique destructeur bloque l'unité nationale. Voilà comment on la voyait. Celle qui mate les grèves, qui aussi mate les manifestations des panthères noirs, hein, des immigrés juifs africains qui se sentent discriminés par comparaison aux immigrés d'Europe centrale et de Russie. Sa réponse à toutes les revendications, c'est toujours la même. Priorité à la défense nationale. C'est ça le sujet. Il n'y a que ça, en quelque sorte. Et elle va encourager la colonisation à Hébron, en Cisjordanie. Elle va refuser tout dialogue avec les Palestiniens. Il n'existe pas de peuple palestinien. C'est ce qu'elle déclare au Sunday Times en 69. Vous imaginez pourquoi elle ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est très dure envers les pays arabes. « Je préfère vos condamnations à vos condoléances », dit-elle. Et le 5 septembre 72, vous savez ce qui se passe au moment des Jeux Olympiques de Munich. Hein, 8 membres de l'organisation Septembre Noir vont tuer 2 athlètes israéliens et en prendre 9 autres en otage. Les terroristes réclament la libération de 234 prisonniers palestiniens. Or, la première ministre ne cède pas et la police allemande va rater son opération commando. Ce qui fait que les terroristes exécutent les 9 athlètes. Vous imaginez le choc. Golda Meir fait face à une guerre d'usure qui a été déclenchée par l'Égypte de Nasser, qui veut récupérer le Sinaï, hein, qui a été perdu pendant la guerre des 6 jours en 67. La première ministre peut bénéficier, bien sûr, du soutien des États-Unis avec Nixon au pouvoir et Kissinger, qui est juif, qui dirige la diplomatie américaine, et de tout le camp occidental, en vérité. Les États-Unis arment Israël, et quand Nasser meurt, elle pense que son successeur ne peut pas être pire. C'est Anwar el-Sadat, le successeur qu'elle estime raisonnable, et lui, pourtant, déclare, Sadat, toutes les portes que j'ai ouvertes m'ont été claquées au visage par Israël avec la bénédiction des Américains. Et plus tard, il dit « La reprise de la guerre est devenue inévitable et tout le pays est mobilisé à cette fin ». Ça va être, bien sûr, début octobre 73. Ça va être ces troupes que l'Égypte et la Syrie d'Hafez al-Assad vont masser aux frontières. Moshe Dayan, le ministre de la Défense et les services de renseignement du Mossad ne croient pas à une attaque, sauf que le 4 octobre, les familles des personnels soviétiques quittent précipitamment l'Égypte et la Syrie. Il y a de quoi s'inquiéter à ce moment-là. David Elazar, qui est le chef d'état-major, va déclencher l'alerte maximale dans l'armée. Il suspend les congés au moment de Yom Kippour. Théoriquement, tout le monde est en congé. Golda Meir et Moshe Dayan ne prennent pas de mesures supplémentaires. Elle s'est engagée auprès des États-Unis à ne pas attaquer en premier. Donc on attend, c'est la fête de Yom Kippour qui commence. Le silence dans tout le pays. Et puis, le 6 octobre 73, une taupe du Mossad en Égypte, qu'on a appelé Babel, et le gendre de Nasser, va annoncer que l'attaque sera lancée dans l'après-midi seulement. Golda Meir et Moshe Dayan décrètent seulement une mobilisation partielle. Ils comptent sur Washington et sur Moscou pour dissuader les attaquants, pour dissuader l'Égypte et la Syrie de se lancer dans la guerre. Sauf qu'à 13h, vous savez ce qui se passe. Les armées égyptiennes et syriennes lancent l'assaut, plus tôt d'ailleurs qu'on ne le pensait. Et le cabinet de Golda Meir va rester sidéré par cette attaque. C'est le début de la guerre du Kippour, bien entendu. Quelques mesures du premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Weinberg par l'Orchestre Philharmonique de Varsovie sous la direction de Jacek Kapczyk.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle est furieuse, Golda Meir. Ils s'en repentiront, dira-t-elle, mais elle voit bien que Tsahal est débordé, que Moshe Dayan panique. Le troisième jour, les Israéliens arrivent quand même à stopper les Syriens au nord et à reprendre un peu de terrain. Les États-Unis envoient tout ce qu'ils peuvent, des tanks, des avions, des munitions. Et après 10 jours, Tsahal, quand je dis Tsahal, c'est l'armée israélienne, bien sûr, lance sa contre-offensive dans le sud qui va être victorieuse. Vous savez, on avance en direction du Caire. Et là, c'est les Égyptiens qui sont menacés. Et évidemment, l'Union soviétique exige un cessez-le-feu. C'est l'Union soviétique de Léonid Brejnev à l'époque. Tout va s'arrêter 2 jours plus tard et on peut dire qu'Israël a vraiment frôlé la fin. 2365 morts, 6400 blessés, pas mal de prisonniers. Mais surtout, nous dit Claude-Catherine Kiechmann dans Golda Meir, une vie pour Israël, cette guerre, c'est paru chez Talendier, cette guerre et la façon dont les dirigeants israéliens se sont laissés leurrer prouvent que l'État hébreu n'est pas invincible et qu'il est tributaire des États-Unis, que la faiblesse des Arabes est toute relative. Une prise de conscience douloureuse à laquelle n'échappe pas Golda Meir après toutes ces épreuves. « Jamais plus je ne serai la même personne que celle que j'étais auparavant », dira-t-elle. Elle a failli dans sa tâche de Premier ministre et elle s'en voudra jusqu'à sa mort de ne pas avoir décidé, en temps voulu, la mobilisation générale des réservistes. On a été tiède, d'une certaine manière, dans le cabinet d'une Première ministre dont vous avez compris que la tiédeur n'était pas la vertu principale. Dans la négociation de paix qui va s'en suivre, Golda Meir va être alors totalement intraitable. Après tout, ce n'est pas Israël qui a déclenché cette guerre. Et ce n'est pas Israël qui l'a perdue, dit-elle, pour essayer de justifier cette position que certains considèrent comme jusqu'au boutiste.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Les Israéliens ont eu peur ils vont rendre Moshe Dayan et Golda Meir responsables de ce qui s'est passé. Le Parti travailliste n'en remporte pas moins les élections, mais de justesse cette fois, la Dame de Fer reste première ministre, mais elle est très affaiblie évidemment. Et il y a une commission d'enquête qui est créée pour évoquer, pour étudier cette question de l'impréparation de l'armée. Et cette commission d'enquête met en cause Golda Meir et met en cause Moshe Dayan, d'ailleurs, qui sont sanctionnés. Le chef d'état-major David Elazar, qui pourtant avait alerté le gouvernement, est celui qui prend, si je puis dire. C'est un peu le lampiste de l'opération, ce qui va provoquer l'indignation générale. Le Likoud, c'est le parti de la droite israélienne, dépose une motion de défiance. Et devant tout ça, Golda Meir est conduite à démissionner. On est en avril 1974. Si elle n'avait pas démissionné, elle aurait sans doute été mise en minorité. Pour moi, c'est fini, je suis arrivée au bout du chemin, dit-elle. Et pour la première fois d'ailleurs, le Likoud va l'emporter. On est là en mai 1977. Elle est toujours malade, Golda Meir, bien entendu. Elle se bat constamment contre cette maladie, contre ce lymphome. Et elle n'a plus maintenant l'énergie nécessaire. Elle est prise et dépassée par cette maladie. Elle va s'éteindre le 8 décembre 1978 à Jérusalem. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous en tout cas, de cette nouvelle et de ce visage qui apparaissait sur les écrans, la mort de Golda Meir, donc. Un an plus tôt, le nouveau raïs, le nouveau patron de l'Égypte, Sadat, avait pris l'initiative d'une visite de paix en Israël. Ça a été un moment absolument historique. Golda Meir était là, il l'a attendu avec Menahem Begin, le premier ministre issu, lui, du Likoud. Elle était là sur le tarmac de l'aéroport. Et Sadat lui a dit, il a parlé donc à Golda Meir, on est juste avant, très peu de temps avant sa mort, « Depuis très très longtemps, j'ai eu envie de vous connaître. » Et elle dit, « Moi aussi, j'ai attendu longtemps pour vous rencontrer. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» Oh, le temps n'était pas mûr, dit Sadat, dont vous avouerez qu'il aura jusqu'au bout été un grand diplomate. Lui-même, Anwar el-Sadat, sera assassiné, vous le savez, à très peu de temps de là, en octobre 1981.
Vous écoutez Radio Classique.
Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Nous sommes le vendredi 11 avril. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Y a-t-il eu un délit d'initié au sommet de l'État américain ? La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a demandé l'ouverture d'une enquête auprès du régulateur des marchés financiers. C'est le moment d'acheter, avait annoncé mercredi le président américain Donald Trump, quelques heures avant de suspendre la majorité des droits de douane et de provoquer une spectaculaire réaction des marchés financiers. Y a-t-il eu manipulation ? Nous y reviendrons bien sûr dans le journal de l'économie. On va revenir également ce matin sur la folle semaine des marchés financiers après le rebond de mercredi, sur les marchés américains. Hier soir, les indices ont de nouveau clôturé en forte baisse. Pourquoi ce yo-yo ? Pourquoi est-ce que la confiance n'est pas de retour sur les marchés financiers ? François Meunier, le directeur de la rédaction du magazine Investir, sera l'invité des Voix de l'économie pour en parler tout à l'heure à 7h15. Dans un instant, le journal de 6h, mais d'abord la météo de ce vendredi. Du soleil partout, Virginie Fulpin.
Et les nuages qui s'accrochent près de la Méditerranée et de la Manche ce matin vont disparaître dans la journée. C'est le soleil qui régnera partout. Il fait bien frais ce matin avec quelques gelées blanches dans le nord-est, mais cet après-midi, grande douceur. Il fera jusqu'à 26 degrés à Bordeaux, 24 à Lyon et Limoges, 21 à Paris et Dijon, 17 à Nice.
Très bon réveil à l'écoute de Radio Classique, il est 6h.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Et Virginie Fulpin pour le premier journal.
L'Europe entre deux chaises, on négocie avec Donald Trump sur les droits de douane et si ça n'aboutit pas, on taxe les géants de la tech américains. Bruno Retailleau veut orienter les étrangers en situation irrégulière vers les métiers en tension. Le ministre de l'Intérieur fait son bilan après 6 mois en poste. Et puis des casiers qui remplacent les boutiques pour récupérer les colis. Mondial Relais change de stratégie et les petits commerçants font grise mine.
Un problème technique ne permettra pas le redémarrage de l'EPR de Flamanville cette semaine. Il est arrêté depuis le 15 février. L'arrêt risque de se prolonger, prévient EDF. L'Europe entre négociations et menaces face à Donald Trump.
90 jours pour s'entendre, après le revirement du président américain sur les droits de douane, l'Union européenne suspend sa riposte. Elle veut laisser une chance aux négociations, mais la Commission et sa présidente, Ursula von der Leyen, continuent à élaborer des représailles en cas d'échec. Dans le viseur, Pierre Pilet, les géants de la tech.
On pourrait imposer une taxe sur les revenus publicitaires des services numériques. Cela fait partie d'un large éventail de contre-mesures. Déclaration d'Ursula von der Leyen dans le Financial Times. Les négociations s'annoncent difficiles, le secteur des technologies est sensible. Washington critique les règles strictes de l'Union européenne.